Éric Andrieux, on se retrouve dans ce Radio Barque 7e de la 9e saison pour alors parler un peu plus après que vous nous ayez enseigné la façon dont la grande machinerie fonctionne sur votre tâche de député européen et notamment un certain nombre de dossiers. Alors, vous, vous êtes spécialiste de l'agriculture, vous l'avez évoqué. À propos d'agriculture, tiens, le glyphosate, au hasard. Alors, voilà un dossier sur lequel vous, vous vous prononcez depuis longtemps, vous êtes contre. L'emploi de ce... Alors, c'est un produit, comment on appelle ça, phytosanitaire.
C'est ça, oui. C'est un pesticide.
Qui est très sujet
un
à...
Un herbicide.
Un herbicide qui est sujet à beaucoup de polémiques. Alors, au moment où vous, vous dites non, il faut l'interdire, par exemple, les Audois viticulteurs, agriculteurs, s'épandent dans la presse en disant « Ah, nous sommes heureux que son usage ait pu être prolongé ».
Alors c'est une question à la fois complexe et la réponse est aussi complexe, c'est-à-dire que, comment dire, ils n'ont pas tort dans la mesure où, je parle des viticulteurs, on parle d'un produit, bon, on parle d'un produit qui élimine l'herbe. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la science,
donc, mais pour eux, qui est utile à, bien sûr, à l'agriculture.
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pas eux, dans mes propos, évidemment, qui sont visés ou concernés. C'est plutôt l'institution française et l'institution européenne. Pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, il faut bien comprendre, je vais essayer d'expliquer ça en quelques mots, donc c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps maintenant.
Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
J'ai même présidé une commission spéciale sur les pesticides au niveau européen, qui a donné lieu pour essayer d'analyser le protocole de mise en marché des molécules, donc puisqu'il s'agit d'économie de grande ampleur, lorsqu'une molécule chimique est autorisée à la mise en marché, le marché est mondial.
Ah, c'est un grand, grand marché.
Voilà, et, et donc il s'agit de milliards d'euros, voilà ce dont on parle. Et que quelque part, lorsqu'on parle de milliards d'euros, on se préoccupe peu de santé humaine, ou de biodiversité, ou d'économie locale, etc. Bon, ça c'est un premier point. Et que donc, évidemment, il y a eu beaucoup de controverses sur la question. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorisation de la mise en marché des molécules primaires, donc, est faite par le niveau européen. Mais les vignerons parlent du produit, c'est qu'une molécule sert à fabriquer un produit. Et un produit est fabriqué à partir de plusieurs molécules. Le glyphosate est une molécule, et ce qu'on utilise
qui
sur
entre
le terrain,
dans la composition.
Du Roundup, voilà. Et le produit, c'est le Roundup qu'on utilise. Donc dans le Roundup, il n'y a pas que la molécule du glyphosate. Or, la molécule du glyphosate a été identifiée il y a maintenant plus de 5 ans par le Comité international de recherche contre le cancer, qui est l'organisme mondial donc de recherche scientifique, comme molécule probablement cancérigène. L'agence européenne.
Probablement, c'est le mot utilisé.
Oui, parce qu'il y a dans la science, si vous voulez, il y a une échelle de grandeur. Ça veut dire donc effectivement, il n'y a pas cancérigène, probablement cancérigène, faible intensité, etc., etc. Il y a une échelle. Donc probablement, ça veut dire qu'elle est.
Enfin, il y a une forte suspicion.
Exactement. Voilà. Donc parce que la causalité est jamais définie à 100%. Il y a toujours une précaution. Mais le CIRC donc dit de façon formelle, puisque je les ai rencontrés à plusieurs reprises, donc c'est quand même l'instance suprême au niveau mondial, au niveau international, dit que pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté. Toutes les recherches croisées, etc., révèlent que la molécule est cancérigène. L'Agence européenne de l'environnement et de la santé, donc l'EFSA, a, elle, décrété, au moment de la réautorisation du glyphosate, donc, que la molécule n'était pas cancérigène. Donc, depuis lors, il y a conflit. Moi, je suis député européen et je suis garant de la santé des 500 millions des citoyens européens. C'est pour ça que ce sujet est intéressant, mais qu'effectivement, là où j'ai poussé un coup de colère à ces dernières semaines, c'est que il y a 4 ans, la molécule a été réautorisée. Dont acte, puisque la science a dit ça. Mais depuis 4 ans, la suspicion reste entière. Et que depuis 4 ans, il ne s'est rien fait pour trouver des molécules de substitution à la molécule du glyphosate. Je comprends bien la demande des agriculteurs. Je ne suis pas un jusqu'au boutiste, évidemment. Mais je me dis attention, parce que vous êtes les premiers concernés en matière de santé. Évidemment qu'il y a besoin de cette molécule-là. Mais ce qu'il faut revendiquer auprès des instances supérieures étatiques et européennes, c'est qu'on ait des molécules ou de substitution du point de vue de la chimie. Je ne suis pas pour, mais... Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ou alors qu'on avance sur des modèles d'agriculture différenciés. Et il y a aujourd'hui des modèles d'agriculture et de viticulture qui procèdent sans glyphosate. Lorsqu'on parle et donc on pourrait la développer, donc lorsqu'on parle d'agriculture biologique, et c'est certainement, puisque j'ai visité quand même pas mal de terroirs en France et en Europe, donc et de vignobles, puisque j'ai été rapporteur de la politique agricole commune dans celle qui va se mettre en œuvre au 1er janvier 2023 et que j'ai travaillé essentiellement sur l'OCM, qui est l'Organisation commune des marchés et qui traite beaucoup du secteur de la viticulture, où j'ai gagné le combat des autorisations de plantation qui seront repoussées à 2045. Bon, je ne vais pas développer, parce que ce n'est pas l'objet de notre échange.
Ça pourrait faire une autre émission.
Tout à fait. Mais donc, effectivement, je pense pouvoir dire que je connais avec beaucoup d'humilité les enjeux en tant que parlementaire et pas en tant que syndicaliste de l'avenir de la viticulture française et européenne. Puisque j'ai accompagné pendant aussi le Covid, donc sur les mesures de dérogation, sur la distillation, les outils de gestion et de régulation, ce qui a fait que le secteur s'est maintenu à flot, hein, faut aussi le dire. Et je pense pouvoir dire avec beaucoup d'humilité que je fais partie des acteurs européens qui non seulement connaissent le secteur, mais ont agi dans l'intérêt du secteur. Et que la question de la molécule de glyphosate est un sujet de santé humaine et de salubrité publique. Et qu'effectivement, il ne faut pas s'arc-bouter, mais il faut réfléchir ensemble et pas les uns contre les autres. Mais effectivement, je pense qu'à terme, le produit vin peut perdre de sa prééminence sur le marché dès lors que, vous savez, que l'étiquetage va avancer, que l'étiquetage du produit vin va être sur les bouteilles ou l'information sera donnée à distance auprès du consommateur et que ces éléments-là vont devoir être pris en considération. Et que à terme, du point de vue purement économique, s'il y a distorsion entre le produit et la communication qui en est faite, les viticulteurs peuvent être les premiers perdants. Et quand je dis à terme, c'est à échéance 10 ans. Donc nous, je comprends bien à la fois, c'est normal.
Pour faire simple, quelqu'un, un consommateur qui apprend que cette vigne a été traitée au glyphosate, n'a pas envie d'acheter ce vin-là, pour dire les choses simplement.
À terme, s'il y a une incidence, si vous voulez, sur la santé humaine, moi le premier, et mes enfants les seconds,
le consommateur
vont s'interroger.
Averti,
Exactement. Et aujourd'hui, on sait bien que le consommateur demande de façon expresse, et c'est en plein développement, demande d'être informé de ce qu'il ingère, que ce soit du solide. C'est la question du Nutri-Score, c'est un sujet encore pour notre émission.
Encore polémique aussi.
Ou que ce soit du liquide, et ça va être dans tous les alcools, donc aujourd'hui, où il y a un enjeu sur le plan cancer au niveau européen, sur lesquels il faut que l'on discute, parce que c'est dans le débat du moment, et qu'effectivement, si on veut être en soutien du secteur viticole, il faut que chacun prenne la mesure des enjeux, calmement, donc, en essayant d'amener des réponses adaptées aux difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Mais effectivement, je pense qu'il faut, tant qu'il n'y a pas de substitution, il faut évidemment accompagner l'utilisation par défaut du produit, parce qu'on ne sait pas faire différemment.
Oui, voilà.
Mais il y a des modèles agricoles aujourd'hui qui montrent que l'on peut faire différemment, avec des résultats économiques beaucoup plus, comment dire, satisfaisants que le modèle de l'agriculture conventionnelle ou de la viticulture conventionnelle.
Oui, votre position, ça serait donc d'encourager vers cette voie-là.
Bien
en
sûr.
Abandonnant les méthodes plus traditionnelles base notamment de ces herbicides.
Tout à fait. Il y a deux niveaux. Une responsabilité à la fois du secteur, de l'agriculture. Et d'ailleurs, on voit bien, puisqu'on fait un produit, il y a un consommateur en face. On voit bien que les désiderata des consommateurs évoluent. Donc, effectivement, il faut bien que l'agriculture s'adapte. Et puis, il y a une responsabilité institutionnelle du pouvoir public qui doit être garant. Donc, de la toxicité des produits pour pas mettre en danger la santé humaine de nos 500 millions de citoyens européens.
Merci Éric Andrieux donc pour ces précisions. Un autre dossier, on va essayer d'en aborder un deuxième dans cette seconde partie. Alors, le MIDCAT, c'est un gazoduc ou un oléoduc?
Alors pour l'instant c'est rien puisque donc il était en projet mais il a été abandonné.
Oui, pour la partie française.
Voilà.
Mais il existe au niveau espagnol.
Mais en fait pas vraiment puisqu'en fait c'est des enjeux un peu complexes, hein, des enjeux énergétiques. Aujourd'hui au niveau européen et je n'oublie pas la question du MIDCAT, on a voté un grand texte qui s'appelle le Green Deal, c'est le Pacte Vert, parce qu'on a pris conscience des enjeux climatiques. Et donc de la nécessité de parvenir à un continent neutre en carbone en 2050. C'est-à-dire qu'il nous faut faire en sorte que toutes nos politiques publiques participent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, il faut supprimer, pour aller vite, donc, hein, toutes nos énergies fossiles. Et le gaz en fait partie.
Dans les MIDCAT, il y avait aussi la notion de souveraineté par rapport au gaz russe, par exemple.
Oui, bien sûr. Mais parce que, effectivement, la guerre, une fois qu'on a eu voté ce texte-là, et j'enchaîne, la guerre en Ukraine, donc, est intervenue et a posé, comment dire, à reposer la question de l'énergie de façon différente, en disant on s'est rendu dépendant. Parce que dire qu'aujourd'hui il faut supprimer toutes les énergies fossiles, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et en le décrétant. Il y a un processus à mettre en place pour passer d'un instant T, donc c'est de l'idéal au réel, comme aurait dit Jaurès, et donc il faut passer d'une situation à un instant T à une autre situation qui tend vers une autre forme de ressources énergétiques. Et dans cette phase-là, effectivement, il y a la volonté de réduire les investissements sur les énergies fossiles, dont le gaz, hein, dont le charbon, dont le nucléaire à terme, mais ça c'est un sujet légèrement différent. Et le MidCat devait permettre justement, c'est un tuyau, voilà, qui devait permettre d'amener du gaz d'une source différenciée, donc du nord de l'Afrique, traversant l'Espagne, pour arriver jusqu'en France et remonter en Europe, avec pour être un tuyau qui conduise que du gaz. Et le problème de la souveraineté énergétique européenne, c'est qu'il faut multiplier les réseaux d'alimentation, mais on ne peut pas à la fois dire d'un côté qu'on va stopper les énergies fossiles et faire des gros investissements pour transporter l'énergie fossile.
Est-ce qu'on ne peut pas envisager des reconversions?
Alors, c'est ça, c'est le nouveau projet. C'est-à-dire que le nouveau projet du MidCat...
Parce qu'on passe du gaz à l'hydrogène.
Tout à fait, exactement. C'est le projet qu'a défendu le président de la République avec Antonio Costa, donc le chef du gouvernement portugais, et Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, en disant, voilà, on modifie la nature du projet initial qui était fait que pour le gaz, parce qu'il n'était pas calibré pour d'autres énergies.
Que le gaz.
Et on part sur un nouveau projet qui va passer à mer, qui est beaucoup plus rationnel. Voilà, là, je dois dire que j'attends les études de faisabilité.
Alors là, c'est plus le MidCat, c'est le Barmal.
Oui, voilà. Mais
entre Barcelone et Marseille, si j'ai bien compris.
Tout à fait, avec l'espoir que je formule au même titre que la présidence Delga, qu'il y ait un point sur la nouvelle. Hein, donc la nouvelle
serre de point d'accroche. Une sorte d'embranchement qui
irait
vers la
Port. Je pense que ça c'est une belle revendication, et je trouve qu'il est légitime, pour le moins. Mais en disant, voilà, on passe par la mer pour avoir un tuyau, si je fais ça en termes de parabole et d'image, qui transporte autre chose que du gaz dans un premier temps, puisqu'on ne sait pas faire différemment dans la phase de transition, mais très vite avec l'espoir que sur l'hydrogène, qu'on ne sait pas aujourd'hui fabriquer sans énergie, nucléaire pour être précis, que la recherche sur l'hydrogène progresse et que demain nous puissions dans ce tuyau, c'est une image, transporter autre chose que du gaz. Donc on va vers un investissement qui soit, comment dire, évolutif. Ce qui n'était pas la donnée, les éléments que nous avions sur le MidCat.
Oui.
Le
MidCat tel qu'il était défini, du gaz, c'était venu uniquement d'Algérie, du gaz.
Exactement.
À l'origine.
Exactement. Et donc effectivement, moi j'étais plutôt pour... Alors il y a eu des malentendus là-dessus, donc avec certaines presses locales dont je tairai le nom, mais moi j'étais le MidCat tel qu'il était envisagé, j'étais contre. Parce que je trouve qu'on ne peut pas être dans un paradoxe permanent en disant d'un côté on élimine les énergies fossiles et de l'autre côté on fait des investissements pour transporter l'énergie fossile. Donc, et par contre, je suis pour le nouveau projet qui est un projet évolutif, qui va de façon transitoire à transporter du gaz, mais à terme, donc transporter
la capacité
de d'autres énergies.
Oui,
exactement.
Oui, voilà. Et rappelons-le au passage, il est prévu à Port-la-Nouvelle d'abord des fermes éoliennes, puis de la fabrication à grande échelle de ce qu'on appelle de l'hydrogène vert.
Oui.
Et alors après cet hydrogène, comme tout gaz, il faudra l'acheminer.
Exactement. Mais d'ailleurs aujourd'hui, ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus, mais l'hydrogène vert n'existe pas. On ne sait pas faire. On est dans un travail de recherche. Il faut faire confiance à la recherche et à la science pour se faire. Mais c'est vrai pour l'ensemble donc de nos productions. Et donc c'est c'est un sujet sur lequel nous travaillons aussi beaucoup au niveau du Parlement et sur lequel je formule beaucoup d'espoir en matière d'énergie, parce qu'il faudra bien sortir de la situation de dépendance dans laquelle nous sommes. Et moi, je suis parti à cette catégorie d'élus qui pense qu'il faut multiplier les dépendances pour gagner en indépendance.
Ah, ça c'est une formule qui va nous servir de conclusion, Éric Andrieux, à cette seconde partie. On se retrouve pour une troisième partie qui, traditionnellement, est consacrée un peu plus à l'homme, ce que j'appelle l'interview côté face, votre vécu, votre carrière, ce que vous ressentez. À tout de suite, Éric Andrieux.
À tout de suite.